Oui, merci monsieur. C'est monsieur Hollande qui donne son chèque d'adhésion à Radio Courtoisie. Merci Roger.
Vive monsieur Hollande.
Alors après il va parler, mais pour l'instant il donne des chèques. Ça c'est bien.
Là, un chèque.
Un auditeur qui m'a écouté, c'est très bien.
Un chèque. Donc tu as le droit d'écouter Radio Courtoisie à partir de maintenant pendant deux ans et trois mois, puisque tu as versé 500 francs.
Non, mais c'est parce qu'il est généreux donateur et c'est seulement pour l'année.
C'est seulement pour l'année.
Alors, gerbe ou pas gerbe ? Effectivement, on peut se poser la question. D'abord, c'est amusant de voir que le débat essentiel aujourd'hui, en 1992, dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs, disons 2 à 300 escrocs à l'Assemblée nationale, je ne dis pas combien il y en a au gouvernement, j'ai pas de chiffres. Donc 3 millions de chômeurs, 2 à 300 escrocs à l'Assemblée nationale, probablement pas loin de 8 millions d'immigrés. Dans un pays donc qui est dans cette situation, la seule question dont on débatte du matin au soir, du soir au matin, du lundi 0h au dimanche 24h, c'est la question de Vichy. Alors, il faut quand même que j'explique pour les jeunes. Vichy, c'est une petite cité riante du centre de la France, dans laquelle, en 1940, le maréchal Pétain investit des pleins pouvoirs par l'Assemblée nationale à majorité socialiste,
issu du Front populaire,
et a installé le gouvernement provisoire, non pas provisoire, le gouvernement de la France, pour que ce gouvernement soit en zone libre, c'est-à-dire en zone sud, puisque les Allemands avaient divisé la France en deux zones, au nord la zone occupée, qu'on appelait
La zone occupée,
et au sud, la zone non occupée, qu'on appelait la zone non occupée.
La zone
voilà.
Libre.
Ou la zone libre.
Plutôt la zone libre, c'était les farceurs qui disaient la zone non occupée.
Donc, dans cette ville, le maréchal Pétain a installé son gouvernement, dont le premier ministre fut Pierre Laval, et ce gouvernement a gouverné la France, occupée et libre. Je crois que je suis assez clair. Ça a duré un certain nombre d'années, et il y a eu... Pendant cette période, je ne voudrais pas dire de bêtises, je vais donc saisir mes chiffres dans un document qui est absolument incontestable, qui s'appelle, je crois, « Des Juifs dans la collaboration » de Maurice Rachfus. Donc, il y avait en gros 400 000 Israélites en France à cette époque. De 41 à 44, 67 000 Israélites furent arrêtés et déportés. Sur ces 67 000 Israélites, 58 500 étaient des Israélites étrangers et 8 500 étaient des Israélites français. Et ces Israélites ont été donc déportés. Alors, à partir de ça, une partie de la communauté israélite actuelle en France veut dresser le procès de la France collaborationniste, plus que collaborationniste, complice de l'occupant allemand, à travers l'attitude de Vichy qui a participé, dont les institutions et les forces de l'ordre ont participé à cette déportation de 67 000 personnes. La question est donc, à travers le procès qu'on veut intenter à Vichy, la question de la culpabilité de la France, de la complicité de la France dans la perpétration du génocide. Je suis clair, je ne dis pas de bêtises.
Non, c'est très clair.
Je ne vais pas aller en prison.
Si, sûrement.
Vous m'arrêtez. Dès que je dis un truc qui peut me faire aller en prison, vous m'arrêtez.
De toute façon, tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous.
Alors, le grand débat, donc, c'est ça. Le chômage, on en parlera plus tard. Les députés escrocs, on en parlera plus tard.
Le sida,
on en parlera plus tard. Tout ça, on verra plus tard. Pour l'instant, le grand débat, c'est ça. Alors, c'est un grand débat parce que, naturellement, le président de la République a été sommé par diverses organisations israélites de reconnaître la culpabilité de la France dans cette affaire. Et il semble qu'il ne soit pas décidé à marcher. Le canard enchaîné prétend même qu'il aurait dit « Je ne vais quand même pas décréter un jour de honte nationale ». Moi, je dis, après tout, pourquoi pas ? Ben, écoutez, ça existait dans le temps, c'était le vendredi saint qui était le jour de la, de l'affliction générale où on confessait ses fautes, où on se repentait tout spécialement des crimes qu'on avait commis. Ça existe chez les Israélites, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, le Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon, le jour au cours duquel on reçoit le pardon pour les fautes commises pendant toute l'année. Donc, je ne vois pas pourquoi, on ne ferait pas une espèce de jour du repentir, on pourrait appeler ça comme ça, dans lequel, au cours duquel les Français se repentiraient globalement, tous ensemble, de toutes les fautes commises par leurs ancêtres depuis le commencement des siècles. Alors, on pourrait donc joindre dans une même affliction, contrition. Dans une même contrition, les crimes de l'occupation, les 105 000 fusillés sommairement de la libération, les milliers de victimes des massacres de septembre, la princesse de Lamballe, les victimes des guerres de religion, les victimes de la séparation de l'Église et de l'État.
Sans oublier les communistes allemands réfugiés en Union soviétique et que Staline a remis manu militari à Hitler.
Ouais. Encore que là, ça va être différent. Bon, je veux bien l'assumer, ouais. Moi, en tant que citoyen français.
Oui, mais puisqu'on a tout assumé, autant prendre cela aussi. Hein,
on pourrait peut-être donc, aussi. Après tout, pourquoi pas faire on pourrait faire ça. Le jour du repentir, au jour de la contrition, on collerait ça, un jour férié déjà existant, parce qu'autrement, on ne va plus travailler du tout.
Ouais.
Pas au mois de mai, parce que alors là, avec les ponts, ça serait pas possible. On pourrait faire ça le 1er novembre, par exemple, n'importe quand. Enfin, peu importe. On trouve une date et on le fait. Et puis, sur le modèle, d'ailleurs, pourquoi pas, du Kippour, c'est-à-dire que tout le monde reste chez soi, circulation interdite, interdit de sortir de chez soi, interdit d'allumer la lumière, suppression des émissions de télévision, d'ailleurs, suspension de l'électricité aussi, tout, chacun chez soi, on bouge pas et on se repent toute la journée. Si c'est à ce prix-là qu'on peut avoir la paix, moi, je veux bien. Pourquoi pas? Alors, tonton, il paraît qu'il veut pas. Il paraît qu'il veut pas du tout. Lui, il dit, en 1940, il y a eu un État français, c'était le régime de Vichy, ce n'était pas la République. Et Pasqua, qui n'est pas la moitié d'un imbécile, dit, la France est peut-être coupable, mais pas la République. Parce que Pasqua, dès qu'il y a quelque chose de bien à dire, il rate pas l'occasion, ça serait vraiment dommage. Donc, il a trouvé, lui, l'explication. Il faut surtout pas faire la repentance, parce que les crimes de la France ne sont pas les crimes de la République. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en République et on est de moins en moins en France, quand même.
Moi, je fais partie des Français qui pensent que tout ça, 50 ans après, c'est quand même un peu longuet et qu'on ferait pas mal d'oublier et de passer à autre chose, entre autres les problèmes dont vous avez parlé, dont tu as parlé avant. Mais si on veut écrire l'histoire de cette époque, il faudra peut-être l'écrire en entier. L'écrire complètement. Moi, j'ai fait l'exode avec mes parents. Bon, nous ne sommes pas partis sur les routes avec une voiture à bras. Les hommes de la famille étant tous mobilisés, les femmes et les enfants, nous nous étions regroupés en Auvergne, dans une maison familiale. Et là, toutes les femmes et tous les enfants de la famille, nous avons vécu des mois et des mois, un an à peu près là-bas. Et puis ensuite, la guerre s'est terminée, l'occupation de la France a eu lieu, la France a été coupée en deux. Mais avant ça, nous avions vu passer des centaines de milliers de personnes sur les routes de l'Exode. Et puis, quand l'armistice a été signé, quand le régime de Vichy a été installé dans la zone libre, quand il y a eu l'occupation de l'autre moitié de la France par l'armée allemande, eh bien, qu'ont fait les Français qui étaient dans le Sud? Ça aussi, il faut quand même le dire. Par train entier, par dizaines de trains, par centaines de trains, les Français dont j'étais avec ma mère et mes tantes, nous sommes remontés en zone occupée par les Allemands. Nous sommes remontés.
Bah vous êtes rentrés chez vous.
Eh bien, nous sommes rentrés chez nous. Et pendant des années et des années et des années, les choses se sont, disons pas des années, mais un an ou deux, les choses se sont passées à peu près normalement. Alors pourquoi aujourd'hui cette hystérie? Et justement, je sors un bouquin prochainement qui s'appelle SOS Hystérie avec Damien Barillet. Mais pourquoi cette hystérie? Parce qu'on a voulu absolument dire que les Français, dès le premier jour, ayant entendu l'appel du 18 juin, ont été des résistants, chassaient les Allemands des rues. Et tout ça, ça n'est pas l'histoire de la dernière guerre. Et je salue, moi, les gens qui ont eu le courage, il y en a eu, mais ils se taisent, ceux-là, aujourd'hui, de commencer la résistance parce qu'ils étaient anti-Boche et qu'ils ne voulaient pas voir les Boches sur le territoire français. Mais c'était une infime minorité. ça n'a rien à voir avec l'histoire telle qu'elle a été écrite. Alors aujourd'hui, eh bien, en France, comme tu le dis, ben, on ne veut pas s'occuper des problèmes du présent, hein, et tout un tas de jeunes gens estiment que eux, s'ils avaient été présents à ce moment-là, ben, d'abord les Allemands n'auraient pas occupé la France, et puis eux, tel le chevalier blanc, aurait été super résistant, super commando, et aurait chassé les Boches à coups de cric, certainement. Mais nous, obligatoirement, puisque nous sommes des hommes de droite, nous ne pouvions être que dans le camp de la collaboration. Alors, va-t-on être obligé de répéter pendant des décennies et des décennies qu'il y avait dans la véritable résistance, parmi les premiers qui se sont dressés contre l'occupant allemand, beaucoup plus d'hommes de droite, voire d'extrême droite, que de gens de gauche?
Alors, je te remercie d'avoir rappelé ces évidences qui devraient être connues, mais qui se ramènent aujourd'hui à une seule question, gerbe ou pas gerbe. Alors, oui, je trouve ça un peu rigolo quand même, parce que la gerbe, c'était le nom d'un journal qui s'est pas illustré, d'ailleurs on peut dire, par une résistance particulièrement vigoureuse, pour autant que je me souvienne. Hein, j'ai pas l'impression que la gerbe, c'était le journal des FFI. Et puis la gerbe de force, c'était un livre d'un monsieur dont on ne peut pas dire non plus qu'il a particulièrement brillé dans la résistance.
La gerbe d'or, et la gerbe des forces.
Non, c'est deux livres différents.
Oui, non,
la gerbe d'or non plus, d'ailleurs, l'auteur n'était pas particulièrement résistant. Alors, il avait de la résistance, mais il n'en a pas fait beaucoup. Alors, tout ça, tous ces problèmes se ramènent à cette question exclusive. Tonton va-t-il ou va-t-il pas déposer une gerbe? Alors, là, on est en pile-poule, en pays de pile-poule. Parce que M. Klarsfeld nous dit... le président de la République ne va pas déposer de germe, ne déposera plus de germe sur la tombe du maréchal Pétain comme ça se faisait depuis des années. À l'initiative du général de Gaulle, il faut quand même le rappeler. C'est le premier qui a déposé une gerbe sur la tombe de Pétain, c'est de Gaulle. Pour, si je ne me trompe pas, le 50e anniversaire de la victoire de Verdun, il me semble. Bon.
Oui, je sais pas.
C'est ça.
Oui,
je pense. Donc, tonton, dit Klarsfeld, ne déposera plus de gerbe sur la tombe du maréchal Pétain. Magnifique victoire de la démocratie. Et de la mémoire. Le lendemain, le service de presse de l'Élysée dit « Cette information ne provient pas de l'Élysée. » On se demande d'ailleurs d'où elle peut provenir, probablement,
indiscrétion de M. Klarsfeld.
Cette information ne provient pas de l'Élysée. Et Klarsfeld dit « Attention, le démenti ne porte pas sur le non-dépôt de la gerbe, mais sur la déclaration de l'Élysée. » Alors demain, il va y avoir probablement un démenti du démenti qui va démentir ce qu'a démenti M. Klarsfeld. Et puis dans 15 jours, bon, on verra, il y aura encore autre chose. Mais je crois que l'affaire est quand même cruciale, vous voyez, elle est importante. Je répète, dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs et quelques centaines de milliers ou quelques dizaines de milliers de Français condamnés à mort par l'incurie des gouvernants qui ont, pour des raisons de fric, fendu du sang empoisonné... Eh bien, dans ce pays-là, la question est de savoir si on va déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain le 11 novembre, c'est-à-dire dans quoi, 6 mois, 4 mois, 7 mois, 5 mois, je ne sais plus, 4 mois, dans 4 mois, ou non. Alors, si vous avez la réponse, écrivez-nous, vous avez gagné. Mais je voudrais quand même vous lire un extrait d'un article dont je vous... Le mot « recommande » est vraiment trop faible, dont je vous intime de le lire. Que je vous somme de lire. Non, parce qu'on n'a pas le droit de rater un papier comme ça. D'autant que je n'ai pas le courage de vous lire la dernière partie du papier. Vous la lirez vous-même, parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas pressé d'aller en prison. Alors, c'est l'article de François Brignot, Journal d'un homme libre, qui est paru dans le dernier numéro de National Hebdo, qui sort ce matin.
Jeudi
matin. Sur Vichy et sur l'affaire du Veldiv de juillet 42, Mitterrand n'a pas été plus franc du collier. Il aurait pourtant... Puis, il était au parfum, se contenter de dire, en 1940, il y a eu un État français, c'était le régime de Vichy, ce n'était pas la République, c'est un peu sommaire. Il est exact que l'État français n'est plus la République, mais il avait été légalement établi par elle. Le mercredi 10 juillet 40, la Chambre des députés du Front Populaire et le Sénat, réunis en Assemblée nationale à Vichy, avaient voté le texte suivant à une imposante majorité, 569 voix contre 80 et 17 abstentions. Entre nous, là c'est moi qui parle, c'est des majorités que le Bérégovoy, il aimerait bien avoir en ce moment. Il n'est même pas capable de faire la même comme Pétain. Alors, vous voyez déjà. Alors, le texte suivant. L'Assemblée nationale donne tous les pouvoirs au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées. Ça, je répète que c'est l'Assemblée nationale qui a voté ça. Et c'est l'Assemblée nationale issue du Front populaire. Alors, Brignot ajoute, ces dispositions étaient sans ambiguïté, l'immense majorité du peuple français les approuvait, des foules énormes qui acclamaient le maréchal à Lyon, Marseille, Saint-Étienne le prouvent, le sergent Mitterrand lui-même était partisan de l'État français, retour de captivité, il se mit à son service, chargé de mission au commissariat des prisonniers, il fit don de sa personne au maréchal Pétain, c'était la formule qui permettait de briguer la Francisque, la plus haute distinction du nouveau régime. Il fallait être cautionné par deux parrains. J'ai, continue Brignot, bien connu l'un de ceux de François Mitterrand, il s'appelait Gabriel Jeantet. Ancien secrétaire général des étudiants d'Action française, ancien cagoulard, il appartenait au cabinet du maréchal et dirigeait un périodique France Revue de l'État Nouveau. Ce n'était pas un démocrate fervent. S'il fallait le définir en deux mots, je dirais que c'était un fasciste anti-allemand, comme bon nombre de maurassiens. Il était d'un courage exceptionnel. Atteint d'un cancer, il fut hospitalisé à Villejuif. J'allais le voir, il ne me cacha pas qu'il serait plus rapide que le mal. Il se poignarda avec un couteau de cuisine, avec un couteau de table, se frappant au cœur, se rata, recommença quelques jours plus tard et mourut. Ce fut Gabriel Jeantet qui permit à François Mitterrand d'obtenir la Francisque numéro 2202. Grâce à ce numéro d'ordre, on fixe à la mi-août de 1943 la date à laquelle elle lui fut attribuée, c'est-à-dire un an environ après ce qu'on appelle aujourd'hui la rafle du Veldiv. Celle-ci n'empêcha pas non plus M. Mitterrand de collaborer à France Revue de l'État Nouveau en décembre 1942, 5 mois après la rafle. Il avait eu le temps d'y réfléchir. Il fit publier un article où, parlant de 1939, il écrivait « On incriminera le régime affaissé, les hommes nuls, les institutions vidées de leur substance, qui avaient fait des Français promis à la débâcle de 1940. Qui avaient fait des Français promis à la débâcle de 1940, ouvrez les guillemets, les héritiers de 150 années d'erreur, fermez les guillemets, c'est la phrase de Mitterrand. 1940 moins 150, ça fait 1790. Ouais. C'est-à-dire que Mitterrand accusait tout simplement la Révolution d'être à l'origine des malheurs de la France et d'avoir engendré 150 années d'erreur. Alors, il faisait ça 5 mois après la rafle du Veldiv. Vous me direz que le rapport n'est pas très étroit, mais c'est quand même assez frappant et on comprend pourquoi. Aujourd'hui, il a un petit peu de mal à condamner, et quand on lui dit gerbe ou pas gerbe, il dit pour l'instant pas no comment. Vous voyez, c'est plutôt amusant tout ça. Et je crois qu'on n'a pas fini de s'amuser, parce que je peux vous livrer en confidence que on est en train, avec mon jeune camarade Vincent Taquer, de préparer un livre sur Mitterrand, les Juifs et Vichy, qui devrait faire un petit peu de bruit dans Landerneau, et qui sera vendu par souscription. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Et alors, je ne lis pas la suite du papier, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme courageux, mais Brignot, lui, qui est un homme courageux, l'a écrite, la suite de ce papier, et vraiment, je vous supplie de le lire, parce que les yeux vont vous en tomber de la tête, quand vous allez apprendre ces choses qui sont connues, mais vous allez les retrouver. Voilà ce que je voulais dire. Je parle beaucoup de cette histoire parce que elle me paraît très fortement symptomatique et symbolique de l'état de délire dans lequel ce pays se trouve. Je rappelle que on a une classe paysanne qui est en voie de disparition. On va avoir tout à l'heure un paysan qui va venir nous en parler. On a une jeunesse qui est totalement déboussolée, qui est sans travail, qui est menacé par la dépravation, par la pourriture, par la maladie, par tout ça. On a des milliers de sidaïques, ou de sidéens, ou de sideux, comme vous voulez, le mot n'a pas d'importance, ce qui est important, c'est le fait. On a une immigration qui est terrifiante, qui fait dire à un procureur de la République du Midi, 85% des trafiquants de drogue sont des maghrébins, en majorité des Tunisiens. C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur de la République de Nice. Bon, on est affronté à des problèmes énormes, graves, dangereux, monstrueux. On a Maastricht à la fin de l'année qui va être un cataclysme pour ce pays. Je prends pour exemple un seul domaine, le domaine de la drogue. Il faut savoir qu'une fois qu'on aura voté, si la France vote pour Maastricht...
Mais on va voter non, de toute façon.
J'espère, nous, oui, mais... va savoir ce que vont faire les Français. Si le oui l'emporte, il faut savoir qu'il n'y aura aucun moyen légal d'empêcher les drogués qui sont absolument libres en Hollande de débouler littéralement sur le territoire français. Aucun moyen, puisque il sera interdit à la douane française d'exercer des contrôles. Interdit, puisque la frontière aura disparu. Donc, ça va être un déferlement de drogue sur ce pays. Ça va être le déferlement de la mafia. On voit ce que fait la mafia en Italie aujourd'hui. Elle est déjà implantée sur la Côte d'Azur. Elle est implantée à Nice. L'ancien adjoint de médecin l'a dit, lui, qui est toujours maire adjoint de Nice, a dit, le seul qui était en mesure de s'opposer à la conquête de Nice par la mafia italienne, c'était médecin. Médecin parti, la mafia s'installe. Daubert a lancé un appel, le député Daubert a lancé un appel très inquiet en disant que Maastricht ouvrait littéralement les portes de la France à la mafia, à la Camorra et à la 'Ndrangheta et à toutes ces organisations criminelles italiennes. Eh bien, au lieu de s'occuper de ces questions, de quoi on s'occupe? De savoir si, oui ou non, il faut que le président de la République fasse un jour de deuil et de repentir, et s'il faut que, oui ou non, il aille poser une gerbe de fleurs sur la tombe d'un maréchal de France, disparu il y a près de 50 ans, bientôt, et qui ne risque pas de revenir. Je rassure ceux qui nous parlent à longueur de journée de la résurrection de la bête immonde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui sont morts sont bien morts.
Oui, mais il est incontestable que si les socialistes peuvent se servir de tous ces événements internationaux et du passé de la France pour des fins, à des fins politiques locales et totalement étrangères à ce qui... aux besoins réels et aux causes réelles qui font la misère de ce pays, c'est vrai que ce sont les socialistes, mais ils ne peuvent le faire que grâce à la droite molle, grâce à M. Pasqua, grâce à M. Seguin, grâce à M. De Villiers, parce que tous ces gens font du cinéma pour nous piquer nos voix. Ils ne le font pas pour autre chose. J'ai un gars, par exemple, un copain qui a mangé avec Longuet dernièrement. Hein, et qui le connaît très bien. Il lui dit, mais enfin, pourquoi vous attaquez comme ça Le Pen et le Front National? Et Longuet lui a fait la seule réponse que je connais depuis longtemps, qui est la seule valable. Il a dit, mais c'est eux ou nous. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors eux, lorsque nous sommes attaqués, et lorsque les socialistes balancent ce qu'ils balancent aujourd'hui, ne disent rien. Mais les trois quarts de ces brillants journalistes, de ces commentateurs radio, ils ne savent pas ce que nous savons. N'importe qui sait tout cela. Ce que Brignot a écrit, nous le connaissons. Ce que j'écris dans le livre qui va sortir, SOS Hystérie.
On va en parler dans une minute.
Tout ça, je ne suis pas tellement venu pour parler.
Non, mais on va en parler. C'est moi qui voudrais en parler.
SOS Hystérie. Mais enfin, si tout cela se met en place, c'est parce qu'il y a un courage, un manque de courage effrayant de tous ces gens qui tiennent à leur place et qui savent que s'ils disent quelque chose qui ne va pas, d'après l'ordre mis en place, le nouvel ordre établi pour la presse et la télévision, ils seront foutus à la porte. On ne peut pas dire que les gens courageux courent les routes aujourd'hui en France.
Alors, pour mettre un petit peu de détente, on va faire une chose que je crois n'a jamais été faite sur Radio Courtoisie, jamais par personne, quelle que soit la diversité des opinions qui s'expriment au micro de cette radio. Jamais personne n'a fait ce que je vais faire, je crois, en 5 ans.
De tambour.
Je vais dédicacer, vous savez comme on faisait sur les radios, de Fifi à Loulou pour son anniversaire, et on passe un disque. Alors là, je dis à Tonton, du fond du cœur, ce disque qui lui rappellera des bons souvenirs.
Sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Marie. maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà, tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. La patrie une seconde fois. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance.
Bon, voilà, c'était donc dédié à Monsieur Mitterrand François, une musique qui a dû lui rappeler sa jeunesse. Et puisque je sais que vous aimez rire comme moi, il faut absolument lire un papier qui est écrit entièrement à la brosse à reluire, trempé dans le vinaigre. D'ailleurs, c'est curieux, d'Alain Rolla dans Le Monde du jeudi 23 juillet 1992, c'est-à-dire Le Monde qui sort ce soir, où il y a ce Rolla qui est quand même un pervers, pour ne pas dire plus, republie un extrait de la lettre ouverte aux hommes politiques de Pierre Viançon-Ponté, qui était la lettre à Mitterrand, dans laquelle Viançon-Ponté se livre à un numéro de contorsionnisme absolument extraordinaire pour démontrer que Mitterrand n'a accepté la Francisque que par esprit de résistance. Oui, alors si vous voulez vous marrer, là vous lisez ça, c'est pas long. Mais c'est grand. Le papier est intitulé « Le rôle du président de la République au regard de l'histoire mérite mieux que la réouverture d'un faux procès », chante Fifi, et se termine par ces phrases. « Devenu président de la République, M. Mitterrand a voulu tirer un trait politique sur ce passé-là, comme il l'a fait en amnistiant contre la vie de certains des dirigeants socialistes, les anciens généraux putschistes de l'Algérie française. » Vous noterez d'ailleurs l'élégance du parallèle. Si cette conception du rôle du président de la République appelle peut-être un débat, elle ne mérite sûrement pas la réouverture malsaine d'un faux procès que l'histoire, de toute façon, a déjà rangé au rayon des aberrations politiques. Alors là, je comprends pas du tout. Quoi, le faux procès qui est rangé au rayon des aberrations politiques? Je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, c'est glissant le terrain. C'est glissant. Quand on parle de l'histoire, on risque toujours de voir les lourdes portes de bronze de la dite histoire se refermer sur ses petits doigts. Voilà, ayant dit, je me tourne vers Roger Olindre, qui va publier, mais tu reviendras pour en parler, Roger. Oui, simplement, j'aimerais que tu nous en dises deux mots tout de suite, livre qui s'intitulera SOS Hystérie.
C'est un livre qui s'appellera SOS Hystérie, et que je fais avec Damien Barillet, et sur des documents que j'ai ramassés pendant des années. Alors, des vieux documents, il n'y en aura pas trop, parce qu'on a voulu surtout taper aussi dans les documents actuels. Ce sont des documents proprement d'insultes contre le Front National, contre Jean-Marie Le Pen, hein, des caricatures totalement obscènes, enfin des choses absolument débiles. C'est pourquoi j'appelle ce livre SOS Hystérie. Et je téléphonais tout à l'heure à Damien, parce qu'on a pris un rendez-vous pour terminer le bouquin cette semaine, vendredi. Et je lui disais, mais enfin, il va falloir qu'on fasse quand même un final qui explique tout ça. Et le final, il est simple, je l'ai en tête, on va l'écrire, mais ce final, c'est comment peut-on en être arrivé là ? Comment peut-on être constamment l'objet de lancement de tombereaux d'ordures ? Nous sommes assaillis par des tombereaux d'ordures, alors que qu'est-ce que nous disons ? Nous demandons à ce que la France reste française. Nous demandons à ce que les Français, chez eux, aient des devoirs, hein, avant d'avoir des droits. Mais que ces droits soient le droit d'être libre chez eux, de pouvoir parler librement chez eux, d'avoir priorité pour le logement, d'avoir priorité pour l'emploi. Enfin, ce sont des choses tellement simples. Comment les gens d'en face peuvent-ils nous répondre par les insultes, hein, et que la presse laisse passer tout ça, et qu'il n'y a jamais un de ces messieurs qui trouve que quand même tout ça est quand même un peu gros, que ça dépasse un peu les bornes. Alors cette histoire du maréchal, cette histoire de la rafle, cette histoire, ben je l'avais dit sur une tribune il y a 2-3 ans, en essayant de disséquer ce problème, en essayant de voir, mais ils ont tout essayé contre nous. Alors ils ne nous attaquent pas sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons, sur ce que nous écrivons. Il nous attaque sur des choses complètement mythiques. Bon, ça y est, la résistance a recommencé. Et comme je le disais tout à l'heure, eux, ce sont les chevaliers blancs de la résistance. Et nous, eh bien, on peut être que les affreux collabos. C'est facile de distribuer les rôles. Jusqu'à présent, ils se contentaient de le faire dans des films. Ils faisaient des résistants dans les films, et puis ils pensaient qu'ils l'étaient dans la vie. Ils faisaient des résistants au théâtre, et puis nous, on était les paratorsionnaires d'Indo, d'Algérie, et tout ça. Et puis aujourd'hui, bon ben, c'est pour la politique locale, pour une élection, pour une petite élection, hein, que l'on se sert de grands pans entiers de l'histoire. Alors à force de prendre des choses historiques très très importantes pour des bagatelles d'élections, on en arrive là, pour un référendum, à brader toute l'histoire de 40 ans en arrière et à raconter n'importe quoi. Moi, je regrette, j'ai 62 ans, donc je fais partie, comme tous les Français qui ont cet âge, des gosses qui ont chanté « Maréchal, nous voilà » à l'école. Mais les gens qui nous faisaient chanter « Maréchal, nous voilà » étaient tous des instituteurs socialistes, les trois quarts du temps. J'en ai jamais vu un qui, dans la cour de récréation de l'école publique à Rosny-sous-Bois, ou à la Plantion de Clairbois, ou au collège à Nogent-sur-Marne, hein, ait refusé de nous faire chanter « Maréchal, nous voilà » qu'on chantait du matin au soir, sous les ordres de tous ces instituteurs. On ne pouvait pas se déplacer sans chanter Maréchal, nous voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Puis de toute façon, tous ces gens, il y a une armée de libération qui a débarqué. Elle était composée de 250 à 300 000 hommes lorsqu'elle a débarqué sur les côtes de France. Lorsqu'elle est arrivée en Alsace-Lorraine et sur le Rhin, elle était composée de combien ? Il y avait des millions de gens qui s'étaient précipités pour endosser l'uniforme et pour aller se battre. Il n'y en a pas eu tellement. Il n'y en a pas eu tellement. Et il n'y aurait pas eu les 14 classes de pieds noirs, parce que les pieds noirs ont été mobilisés, 14 classes de pieds noirs qui ont été mobilisés. Et puis il faut quand même le reconnaître, hein, les gens d'Afrique du Nord, hein, les unités...
Excuse-moi, Roger, j'en connais au moins un. Je connais au moins un qui m'est très proche, qui est un membre de ma famille, oui, qui était au Jeunesse Socialiste, dans le maquis des Jeunesses Socialistes de Belfort, oui, et qui s'est engagé illico,
oui,
dans la Mauvaise Mère. Donc
non,
il y en a eu. Il y en
oui,
a
oui,
eu.
Oui, non, mais je ne dis pas, non, mais ne me fais pas dire, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je dis que ça n'a pas été la levée en masse. Bon, alors aujourd'hui que tous ces gens jouent les héros, jouent les patriotes, je trouve que c'est quand même un peu fatigant. Et puis que ce soit toujours nous qui ayons le mauvais rôle, c'est quand même un peu lassant. Alors, on a le mauvais rôle dans la guerre d'Indochine, on a le mauvais rôle dans la guerre d'Algérie, on a le mauvais rôle dans l'occupation, on a le mauvais rôle dans l'occupation. Mais ça commence à bien faire, ça commence à être un peu fatigant. Moi, Robert Laffont m'a demandé, hein, il y a quelque temps d'écrire mes mémoires. je suis en train de préparer des notes pour un bouquin de mémoire que je ne pense pas sortir avant 3-4 ans, parce qu'il faut que il y a un gros travail de préparation. Mais je raconterai ma jeunesse chez ma grand-mère concierge à côté de l'avenue Kléber, dans ce quartier qui était bourré de bosses, qui était bourré d'état-major allemand. Je raconterai ce qui se passait tous les jours, la vie de tous les jours d'un gosse de Paris, d'un gosse de France, dans la France occupée. Eh bien, c'est exactement le contraire de tout ce qu'on veut nous faire avaler aujourd'hui. Et voilà ce que je me suis engagé à la fin de la guerre, pour libérer ce pays, lorsque j'ai été piqué les mitrailleuses, comme tout le monde le sait, aux Allemands. Eh bien, il y avait beaucoup de gens qui se dirigeaient aussi vers la gare de triage de Noisy-le-Sec. Mais ils se dirigeaient vers des wagons de beurre et de cigarettes. C'était pas du tout la même chose. Celui qui s'est fait tirer sur la gueule à la mitrailleuse lourde, c'est moi, avec mon petit copain. On s'est fait tirer dessus à la mitrailleuse lourde, parce que nous, on s'attaquait aux wagons d'armement. Les autres, ils s'attaquaient aux wagons de beurre et aux wagons de cigarettes. Alors ils vont nous dire, là aussi, vous devez vous taire, vous n'avez pas à dire ça. Mais ça commence à bien faire. Et avec le sac national des combattants, et surtout avec le drapeau, l'association des anciens déportés et des anciens résistants du sac national des combattants, ben nous comptons mettre les pieds dans le plat. Voilà, nous avons autant de résistants qu'en face. Nous avons autant de gens qui ont été déportés qu'en face. Et puis moi, je pars du principe que tout ça s'est passé il y a 50 ans. Alors je préférerais ne pas en parler. Je préférerais, pour l'honneur de mon pays, pour l'amour entre les Français nécessaire, pour essayer de garder la place de la France. Mais comme le disait Serge, cette place de la France, est-ce qu'elle existera encore si ce oui à Maastricht est acquis?
Parce que, pardon de te couper, Roger, mais il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est quand on lit la presse, quand on écoute les déclarations des différents leaders politiques, communautaires, associatifs, des consciences, des personnalités morales, des justes, comme ils disent, quand on les entend, on s'aperçoit que c'est exactement les mêmes qui disent « On ne peut pas, en France, se réconcilier entre nous, une fois pour toutes, c'est exclu. On ne veut pas se réconcilier avec les Français qui ont commis les crimes qu'ils ont commis. » Mais en revanche, il faut voter oui à Maastricht parce qu'on va tomber dans les bras des Allemands et on va s'embrasser sur les deux joues. Personnellement, j'ai rien contre la réconciliation avec les Allemands, mais enfin, je trouve quand même extravagant qu'on refuse de se réconcilier avec des Français et qu'on ne soit prêt à se jeter dans les bras des Allemands, où, il me semble, je peux me tromper, j'ai pas la statistique, mais il me semble quand même qu'en Allemagne, aux alentours des années 40, il y avait plus de nazis qu'en France. Je sais pas, on n'a pas d'historien autour de cette table, je peux pas vérifier. Mais si un auditeur est pas d'accord avec moi, il peut téléphoner s'il a des chiffres. Il me semble qu'il y avait plus de nazis en Allemagne qu'en France en 1942, par exemple, et que même en 42, la situation, par exemple, des Israélites était encore plus désagréable en Allemagne qu'en France. Vous voyez, je crois ça, moi, mais je suis pas historien, je peux me tromper.
Oui, mais ces gens, il est sûr et certain que ces gens racontent n'importe quoi sur tous les sujets. Si on voulait, on pourrait les reprendre. Si on avait les radios, si on avait la grande presse, on pourrait les reprendre. Et les journalistes pourraient les reprendre. Ce sont les mêmes qui viennent nous raconter, par exemple, qu'un petit pays comme la Croatie ne peut pas être indépendant, parce qu'il est trop petit. Mais ce sont les mêmes qui pensent que 45 000 Kanaks peuvent être indépendants en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est atterrant qu'aucun journaliste ne saute sur ce genre de choses et n'explose. Moi, je ne peux plus regarder la télé, je ne peux plus écouter la radio, j'en ai par-dessus la tête et je suis sûr que les trois quarts des Français sont comme moi. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous parler des Boches? Mais la radio des Boches n'était pas pire que celle-là, c'est la propagande Staffel. Tous ces gens travaillent à la propagande Staffel socialiste. Personne ne met le haut-là à toutes ces discussions. On entend vraiment du bourrage de crâne à longueur de journée, et le drame dans ce pays, c'est que beaucoup de Français ont l'air de s'en foutre totalement. Les gens ont du mal à boucler les fins de mois. Les gens sont de plus en plus pauvres. Il y a de plus en plus de malheureux dans ce pays. Ce qui semble les intéresser, ces malheureux, c'est ce qu'ils ont dans le porte-monnaie. Je disais à ma femme hier soir, ils vont à l'épicerie, ils vont regarder la bouteille d'huile qui est à 60 centimes moins cher ou 45 centimes moins cher parce qu'ils ont des problèmes de fin de mois. Alors là, cet argent, ils le comptent. Mais l'argent qu'on leur pique pour les impôts, eh bien n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Et quand on voit par exemple au Conseil régional d'Île-de-France, dont je fais partie aujourd'hui, que l'on reçoit chaque semaine 20 à 30 kilos de documents, des brochures en couleur, l'Île-de-France vue du ciel, les égouts de l'Île-de-France, les petits chiens de l'Île-de-France, l'Île-de-France vous raconte n'importe quoi, tout ça envoyé par Chronopost à 35 francs, 45 francs. Ça, c'est le conseil régional. Alors, quand on sait que c'est pareil dans les municipalités, pareil au conseil régional, pareil à l'échelon national et 10 fois pire à l'échelon européen, cet argent pourrait servir quand même pour les Français. Eh bien, les 3/4 des gars s'en foutent. Les 3/4 des gens s'en foutent. Et c'est pour ça que les autres en profitent. Lorsque monsieur Emmanueli vient raconter qu'il n'a pas à être condamné parce que même s'il a volé de l'argent, il l'a volé pour le Parti Socialiste. Mais cet argent vient de la poche des contribuables. Les fausses factures sont faites comment ? Pour construire un pont qui vaut 120 millions lourds, par exemple, je cite un chiffre, on fait une facture de 200 millions. Mais la différence, elle est bien prise dans la poche des contribuables. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et personne ne l'explique. Alors là, en ce qui concerne l'occupation, Vichy et tout ça, alors là, on essaye de nous expliquer. Les Français, d'ailleurs, n'y comprennent strictement rien. Parce que je crois que les plus concernés, c'est nous qui sommes des hommes de livres, des hommes de lecture, des hommes d'histoire, qui nous intéressons à l'histoire de notre pays, hier, avant-hier, aujourd'hui et pour demain. On comprend tout ça, mais les 3/4 des jeunes gens, des jeunes filles de ce pays, je me demande comment ils peuvent y comprendre, J'entendais l'autre jour, une jeune fille à la télévision, une présentatrice à la télévision qui disait 11 novembre 1940, alors que le régime de Vichy a interdit que soit déposée une gerbe à l'Arc de Triomphe, mais qu'est-ce que le régime de Vichy faisait à Paris et commandait à Paris en 1940? Bon, c'est les Boches qui commandaient à Paris à ce moment-là. Et les Boches à ce moment-là, eh bien, je les voyais. Moi, j'étais avenue Kléber chez ma grand-mère qui était concierge. Et je sortais. Et jusqu'à la fin de mes jours, je répéterai ce que je voyais dans la rue. Il y avait là, au métro Kléber, à la station Kléber, la plus près du Trocadéro, un mutilé de la guerre de 14 qui avait une jambe coupée et un bras coupé. Et il vendait des billets de la loterie. Parce que la loterie marchait, même sous l'occupation, il vendait des billets de loterie. Et il avait sa Légion d'honneur pendante et sa médaille militaire. Et tous les soldats allemands du deuxième classe au général qui passaient, il y avait que ça dans ce quartier, le saluaient. Et les gens disaient, ah, ça c'est poli. Et à 200 mètres de chez ma grand-mère, il y avait un garage. Et moi, je regardais les Boches comme des occupants, j'avais 12 ans, et dans ma famille, on était anti-Boche, je les regardais comme des occupants, un peu fasciné parce que j'étais un gosse. Mais là, tous les gens à chapeau mou, tous les gens à canne, à pommeau d'argent, qui étaient sur le trottoir de l'avenue Kléber et qui habitaient là, attendaient que les Allemands sortent le matin, et la compagnie de garde sortait de ce garage Renault souterrain, et ils marquaient le pas. Et lorsque le premier soldat allemand mettait son pied sur l'avenue Kléber, le chant commençait. Et les gars étaient là, tous ces hommes à casquette et à canne, et qui disaient « Ha ha ha, on peut régler sa montre sur ces gens-là ». Voilà la vérité. Voilà la vérité. Alors après, les choses ont changé. Mais c'est avant que le maréchal Pétain avait été mis au pouvoir par un gouvernement de Front Populaire, par une assemblée de Front Populaire. Alors s'ils veulent écrire l'histoire, eh bien qu'on l'écrive entièrement et qu'on rende à chacun ce qu'il a fait. Nous n'avons rien à voir dans toute cette histoire. Nous étions des gamins, nous étions des genoux, nous n'avons rien à perdre à ce que l'histoire de France soit écrite telle qu'elle doit être écrite. Mais alors qu'on écrive l'avant, le pendant et l'après après, parce que nous, anciens d'Indochine et d'Algérie, on a peut-être à ce sujet, au sujet de la trahison de tous ces gens, pas mal de choses à dire.
Roger, tu nous disais tout à l'heure que les jeunes ne comprennent rien à cette histoire, mais tu es mieux placé que n'importe qui pour le savoir, puisque tu as créé un mouvement de jeunes qui s'appelle les cadets.
Oui, j'ai créé, et j'en suis très fier.
J'aimerais bien que tu nous en parles.
Les cadets du CNC, je ne manque plus jamais. Le soir à la veillée, une ou deux fois par semaine, aux couleurs le matin, lorsqu'ils sont au château, de leur parler de l'honneur, de la patrie, hein. Je leur parle surtout du drapeau qui flotte et qui est le drapeau français. Et je leur dis surtout que l'histoire de France, nous devons l'apprendre avec tout ce qu'elle a. Ce qui était bien, ce qui était moche. Parce qu'il n'y a pas dans l'histoire du monde un pays qui n'a pas un passé un peu troublé. Alors nous prenons tout. Hein, nous prenons tout de l'histoire de France. Parce que personne, à part ces gens qui se croient autorisés par on ne sait qui, hein, personne n'a le droit de trancher, de couper, dire cette partie de l'histoire de France, on l'apprend parce qu'elle était bonne, cette partie-là, on ne l'apprend pas parce qu'elle était mauvaise.
Et comment ils réagissent, ces jeunes, à ces questions? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que ça les intéresse?
Ben, à la différence de ce que prétendent un certain ignare de la presse écrite ou télévisée, on ne leur fait pas tellement de politique aux cadets du CNC. La seule politique que l'on fait, c'est leur apprendre l'amour du pays et leur parler de ceux qui sont tombés pour la patrie. Et Dieu sait qu'il y en a eu un bon paquet. Et lorsque chaque année il y a la promotion, obligatoirement la promotion porte un nom, hein, et ce sont les gosses eux-mêmes qui proposent le nom d'une promotion. Hein. Et pour proposer le nom de cette promotion, bien ils apprennent dans les livres, hein, y compris les livres d'histoire, ce qui a été. Bon, il y a eu comme promotion, il y a eu Catine, il y a eu, enfin, beaucoup de choses comme ça, hein, et ils savent exactement de quoi ils parlent. Mais si on voulait leur réapprendre tout, il faudrait leur apprendre tout ce que l'éducation nationale ne leur a pas appris. Et bon, ben, il faudrait des années et des années. C'est pour ça que je pense que le jour où nous aurons tout ou partie du manche dans ce pays, et je me bats pour cela, hein, avec Jean-Marie Le Pen et le Front National, eh bien, je pense qu'il faudra faire table rase de toutes ces études et de tous ces bouquins et réécrire l'histoire, la faire écrire par des historiens avec un grand H, alors qu'à l'heure actuelle, c'est une petite succession de petites histoires. Parce que quand je vois, par exemple, comment est présentée la guerre d'Indochine, quand je vois comment est présentée la guerre d'Algérie, quand j'entends hier soir, tout à fait par hasard, en zappant sur mon poste de télévision, Monsieur Frédéric Mitterrand, depuis Tunis, faire une émission entièrement anti-française du début à la fin, hein, où seulement les gens qui ont tiré sur les soldats français, les gens qui étaient contre la France, hein, avaient raison, et tous ceux qui aimaient la France avaient tort, et bien là aussi, je dis que celui-là, il aurait été très bien, hein, au service du lieutenant qui dirigeait la propagande à Staffel, à Paris, à ce lieutenant auquel les communistes avaient demandé l'autorisation de faire reparaître l'humanité.
Le lieutenant Heller.
Oui.
Roger, justement, ces jeunes cadets du CNC, tu nous parlais tout à l'heure des baptêmes de promotion et des grands événements qui jalonnent leur existence.
Justement, il est bien sûr et certain que tout cela ne se fait pas tout seul. Il y a cette année 80 cadets. Hein, je demande pour l'année prochaine à ce que tous les gens de ce pays, hein, qui pensent que des garçons doivent être formés dans l'honneur, dans la discipline, dans l'amour du drapeau, dans l'amour de la patrie, hein, ben, fassent un effort pour nous envoyer leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et cette année, le triomphe des cadets a lieu le samedi 1er août à 20h30. Alors, les tickets d'entrée seront vendus à l'entrée de la propriété à partir de 19h pour ceux qui n'auront pas leur ticket, mais on peut s'inscrire en téléphonant au Cercle National à Paris, CNC Paris, 40 59 07 66, à Madame Lezeau, tous les après-midi. Je dis réserver ces places en téléphonant à Madame Lezeau au CNC Paris, 40 59 07 66, tous les après-midi. Et le triomphe a lieu le samedi 1er août À 20h30, c'est une grande fête de nuit. Avant, il y a un buffet. Donc, on demande à ce que les gens arrivent à partir de 19h de façon à ce qu'ils fassent inscrire. Ensuite, ils peuvent aller boire un pot en attendant le buffet. Et après le buffet, il y a la fête. Et le dimanche midi 2 août, il y a un grand méchoui. Et tout cela pour les deux jours coûte 300 francs pour les adultes et 200 francs pour les enfants de moins de 13 ans. Alors, téléphonez en s'inscrivant au 40 59 07 66, demandez Madame Lezot et donnez son nom.
Comment ça se passe le triomphe?
Il faudrait que Roger précise quand même que ça n'est pas Nuremberg. Hein,
Oui, mais ça... Bah, là, l'année dernière, on avait fait, National Vidéo avait fait un magnifique film, hein, et monsieur Guillaume Durand, hein, l'ordure bien connue, que j'attends. Je cherche dans les restaurants où je rentre depuis un an, je cherche toujours si monsieur Guillaume Durand est là. Je pense qu'un jour, je tomberai sur lui dans un restaurant, il aura le hors-d'œuvre et le dessert en même temps. Alors, monsieur Guillaume Durand, lui, qui n'a certainement jamais mis un centime dans du social, hein, parce que tous ces gens font le social avec le fric des Français. Moi, j'ai la prétention d'avoir toujours, y compris pour les jeunes musulmans que j'amenais à la France en Algérie, hein, fait du social avec mon argent. Alors, monsieur Guillaume Durand, lui, a pris un film de National Vidéo, l'a tronqué, a coupé certains passages et a présenté le passage où on voyait les jeunes hein, devant le drapeau tricolore. Il n'y avait pas de drapeau avec autre chose dessus. Il y avait la chimère, hein, la chimère qui est le dragon d'Annam, qui est l'insigne officiel hein, des cadets. C'est cette chimère qu'on leur remet après les épreuves de l'été en montagne. Personne ne porte la chimère avant d'avoir fait un stage d'été. Et là, en ce moment, ils sont en Auvergne. Ils sont par équipe de 8 ou 10 dans la montagne, équipe de filles, équipe de garçons, sous la responsabilité de leur chef d'équipage. Hein, et il y a un grand jeu qui dure 10 jours. Hein, ils parcourent la montagne, ils sont ravitaillés par un petit avion, hein, et ils doivent baliser, ils doivent donner leur signalement, et si c'est mal balisé, eh bien, ils ne sont ravitaillés que le lendemain soir à un autre endroit de la montagne, et je veux dire que c'est... Il se débrouille bien en topographie, il se débrouille bien en tout, et vraiment, quand je les vois, garçons et filles, je les regardais l'autre jour, là, de ma fenêtre, après les couleurs, j'étais rentré, et puis là, Olivier Corbin leur donnait des consignes, je voyais cette jeunesse, ces garçons et ces filles qui étaient beaux, qui étaient sains, sportifs, et je me disais que ça changeait un peu de ce que je pouvais voir hein, dans les banlieues pourries où je vais souvent faire des discours. Mais je pense que même dans ces banlieues pourries, si le corps enseignant, si l'éducation nationale avait fait son travail, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense que la jeunesse de France est sauvable, qu'on peut la sauver. Il suffit tout simplement de lui donner l'exemple.
Merci Roger. Écoute, on va conclure avec une...
Je peux juste apporter une
précision. Je voudrais dire un mot aussi, là, si c'était possible, pour terminer. Je voudrais demander à Monsieur Guifray, à Monsieur Jean Vergniaud, à Monsieur Ban de Garden et à Mademoiselle Simone Lavanant de m'envoyer une lettre personnelle en me donnant leur adresse, j'ai besoin de les contacter. Alors Monsieur Guifray, Monsieur Jean Vergniaud, Monsieur de Ban de Garden et Mademoiselle Simone Lavanant. J'ai absolument besoin.
C'est pas pour leur renverser une soupière sur la tête.
Non, c'est pour les remercier parce qu'ils versent tous les mois quelque chose pour le château, et je n'ai pas leur adresse, et je voulais les inviter à un dîner.
Voilà, écoute, comme ça l'invitation est lancée. Merci Roger.
Je voulais juste préciser tout à l'heure à propos de l'émission de la 5, qui était passée sur la 5 avec Guillaume Durand, que nous avons voulu, bien sûr, et nous avons fait commencé une action en justice, puisque le film de National Vidéo avait été tronqué, la propriété artistique avait été bafouée, nous étions du reste sûrs de gagner, et malheureusement, la 5 à ce moment-là a déposé son bilan, et toutes les poursuites s'en sont retrouvées caduques.